Paris, 22h à Niamey, à Maïdougouri. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Nouvelles attaques de Boko Haram au Nigeria ce week-end. Beaucoup commencent à douter de la mort de son leader, Aboubakar Shekau. Au Niger, le débat fait rage autour de l'achat du nouvel avion présidentiel.
Ils ont volé l'argent des militaires, ils ont volé le peuple nigérien, ils ont détourné l'argent du peuple nigérien. Et là, on a déposé une plainte contre X.
Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa. Lutte contre le virus Ebola en Guinée, les autorités sanitaires veulent désormais associer les résidents pour mieux réussir la prévention. Enfin, rubrique éducation au Togo, un groupe de jeunes filles a défrayé la chronique en réussissant à fabriquer des ordinateurs, en se servant notamment de bidons en plastique. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Lola Komatri à ce micro. La présidente de la RCA, Catherine Samba-Panza, a confirmé que les élections n'auront pas lieu en février 2015. Dans un entretien accordé à la Voix de l'Amérique depuis Washington, la présidente de la transition centrafricaine a refusé de s'engager sur un nouveau calendrier.
Mais posez-vous la question suivante. Comment organiser des élections quand la moitié du pays est encore dans l'insécurité? Comment organiser des élections quand l'état civil est totalement détruit et n'est pas encore reconstitué? Comment organiser des élections quand l'administration n'est pas encore redéployée sur le terrain? Comment organiser des élections alors qu'une bonne partie des populations se trouve encore dans les sites de personnes déplacées? Comment organiser des élections alors qu'une bonne partie de la population est réfugiée en dehors du territoire national? Il s'agit là de questions importantes que l'autorité nationale des élections, avec l'appui de la communauté internationale, devront se poser.
Donc on ne votera pas en février 2015 en Centrafrique. Quand estimez-vous qu'il sera possible de voter?
Il ne m'appartient pas, en tant que président de la transition, de décider des dates. Il appartient à l'autorité nationale des élections, en partenariat avec la communauté internationale, de faire une analyse objective du processus en cours et de revoir le calendrier.
Le Quai d'Orsay a confirmé l'enlèvement d'un Français hier dans l'est de l'Algérie, dans la région de Tizi Ouzou. Il s'agit d'un randonneur de 55 ans, originaire de la région de Nice, le sud de la France, arrivé en Algérie il y a 2 jours. Le rapt a été revendiqué dans la journée par un groupe lié à l'organisation de l'État islamique. Tizi Ouzou est une zone connue pour être un maquis où se trouvent des islamistes. Cet enlèvement intervient au moment où la France appelle ses ressortissants à la plus grande prudence après les menaces proférées aujourd'hui par le groupe de l'État islamique. Le gouvernement de Juba et les rebelles sud-soudanais qui s'affrontent depuis 9 mois dans une sanglante guerre civile ont repris aujourd'hui les négociations de paix en Éthiopie. Les négociations se tiennent dans la localité éthiopienne de Bahir Dar, dans le nord-ouest du pays, selon l'agence France Presse. Parmi les principaux enjeux, l'attribution du poste du Premier ministre et les pouvoirs qui lui sont attribués, a expliqué Tabang Dang, chef de la délégation rebelle qui est citée par l'AFP. Le Soudan du Sud est déchiré depuis la mi-décembre par un conflit émaillé d'atrocités entre les troupes fidèles au président Salva Kiir et celles de son ancien vice-président et rival Riek Machar.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Renforcement de la sécurité à la Maison-Blanche à Washington après qu'un intrus eut franchi la clôture entourant la demeure présidentielle vendredi dernier avant d'être appréhendé. Selon les autorités, le suspect est un certain Omar Gonzalez, 42 ans, un ancien combattant de l'armée américaine qui a servi à plusieurs reprises en Irak. Il portait un couteau pliant dans la poche de son pantalon. Quand il a été arrêté, la lame mesurant 9 cm de long. Monsieur Gonzalez a comparu devant la justice aujourd'hui. Il est accusé d'entrée illégale avec une arme mortelle. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus demain mardi à New York pour un sommet des Nations Unies visant à donner un nouvel élan aux négociations internationales sur le réchauffement climatique. Il ne s'agit pas d'une session de négociation, mais les participants devraient annoncer des engagements qui faciliteront un accord contraignant à la conférence internationale prévue à Paris fin 2015. Dimanche, des centaines de milliers de personnes ont défilé à New York et ailleurs dans le monde pour exiger la prise de mesures contre le réchauffement climatique. Lors de ce sommet, réagissant à ces manifestations, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a tenu à insister sur l'urgence de la situation, tout en affirmant qu'il n'y avait pas de plan B pour l'avenir de la planète. Les autorités américaines sont à la recherche de 3 soldats afghans qui ont disparu samedi au cours d'un exercice d'entraînement à la base militaire de Cape Cod dans le Massachusetts. Les 3 soldats ont été identifiés comme étant le major Jeanne Mohamed Arash, le capitaine Mohamed Nassir et le capitaine Norula Amayi. Aminiara. Fin de ce bulletin d'information. Retrouvez Claire Morin-Gibourg dans Sahel Plus.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission avec le Nigeria, où de nouvelles attaques de Boko Haram ont eu lieu ce week-end, notamment dans un marché de la ville de Maynok, dans l'état de Borno, faisant des dizaines de morts. Les habitants du nord-est du Nigeria sont de plus en plus sceptiques face aux rumeurs sur la mort du leader de Boko Haram, Abubakar Shekau, lors d'affrontements avec l'armée camerounaise. Le point avec notre correspondant Abubakar Guarzo.
C'était des membres de Boko Haram qui ont attaqué le vendredi un marché dans une ville qui s'appelle Maynok, dans l'état de Maiduguri. Il y a plus de 36 morts actuellement.
Entre-temps, il y a des rumeurs persistantes sur la mort de plusieurs militants de Boko Haram tout près de la frontière camerounaise.
Oui, mais selon l'armée nigériane, ils ont confirmé d'avoir tué plus de 23 militants de Boko Haram. Et puis, de l'autre côté aussi, vers la frontière du Cameroun, Boko Haram aussi a pu tuer 4 Camerounais.
Et rien n'a été dit sur le sort de Abubakar Shekau.
Shekau, tout le temps, il y a des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a aucune source qui nous confirme que Shekau est décédé. Comme je t'avais dit, de temps en temps, des rumeurs courent. Il y a Shekau est décédé, Shekau n'existe pas. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas confirmer le tel de Shekau. Il faut qu'on donne autant pour que nous puissions vérifier l'authenticité de l'information de son décès.
Abubakar Guarzo, correspondant de la Voix de l'Amérique à Kano, dans le nord du Nigeria, il répondait aux questions de Chérubin Dorsil. Nous sommes au Niger pour notre dossier, pour revenir à l'affaire de l'achat du nouvel avion présidentiel. Un achat qui fait des vagues alors que le Niger est toujours classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. Beaucoup s'interrogent sur le bien fondé de cette dépense réalisée grâce aux deniers publics. Des députés nigériens de l'opposition parlementaire ont donc porté plainte contre X pour détournement de fonds publics et surfacturation. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
La plainte a été déposée mardi après-midi sur le bureau du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Pour les parlementaires de l'opposition, l'objectif de l'inscription budgétaire qui a servi à l'achat de cet avion était certes un avion, mais pas de type civil. Nassirou Halidou, député du Modèle Lumana Africa, parti du président de l'Assemblée nationale.
Nous, on avait inscrit bien 21 milliards pour l'achat d'un avion militaire. Il a été dit acquisition matérielle de transport, entre parenthèses, avion militaire. Le Mont Grébou n'est pas un avion militaire, il ne voit pas la chasse, il ne voit pas la guerre. C'est pas ça la preuve de ça. C'est le journal officiel, c'est le journal de l'État du Niger. Et ce que nous disons, ça c'est du vol. Et c'est un détournement d'objectif. Ils ont volé l'argent des militaires, ils ont volé le peuple nigérien, ils ont détourné l'argent du peuple nigérien. Et là, on a déposé une plainte contre X pour détournement d'objectif de 21 milliards. L'avion tout neuf a été acheté en 1998 à 16 milliards. Et cette année 2014, ironie du sort, ils l'achètent à 20 milliards. Est-ce que vous savez à qui on a donné le marché de l'avion? C'était de l'entourage du président de la République, un parent très proche du président de la République.
Une inquiétude tout de même sur la suite qui va être réservée à cette plainte par le parquet.
Le parquet a l'habitude, à travers les journaux, de s'auto-saisir, n'est-ce pas?
Maintenant, nous, personnellement, les députés d'opposition, on saisit le parquet pour vol et détournement, n'est-ce pas, d'objectifs du peuple nigérien de 21 milliards. C'est nous qui l'avons saisi et il est obligé de regarder notre saisie. C'est une plainte. Ce n'est pas une dénonciation, c'est une plainte. Il est obligé de donner une suite. En toute sincérité, moi, je n'ai pas confiance au procureur de la République. Honnêtement, je n'ai pas confiance. Voilà un procureur qui demande la levée d'un député, alors même que le dossier est dans la main d'un juge d'instruction. Il s'auto-saisit, il demande la levée de son immunité sans que le juge d'instruction lui-même ne lui demande. Et pourquoi je dis que je n'ai pas confiance en lui? S'il ne donne pas une issue favorable, on va saisir la justice avec condition de partie civile.
Tous les regards sont donc tournés vers le bureau du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour la Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 101.9 FM à Arlit et à Agadez sur la radio Nomade. En Guinée, la Coordination nationale de lutte contre Ebola a fait le point ce week-end sur l'évolution du virus. La mort la semaine dernière de 7 membres d'une délégation de sensibilisation à Womé dans le sud du pays a mis en exergue les réticences des communautés à accepter l'existence du virus et à vouloir prendre toutes les mesures nécessaires pour s'en prémunir. Les autorités sanitaires veulent désormais associer les résidents pour réussir la lutte contre Ebola en Guinée. Reportage de notre correspondant Zakaria Camara.
Le nouveau cas signalé à Dalaba, à environ 360 km de Conakry, complète à 11 le nombre de villes ayant enregistré les malades d'Ebola en 21 jours. L'équipe de Riposte a déclaré cette semaine aux journalistes que les efforts restent à faire. Docteur Sakoba Keïta, coordinateur national de lutte contre Ebola.
La plupart des messages que nous diffusons, ces communautés éloignées n'arrivent pas à les écouter et à s'approprier. Donc il a été montré aussi que les rumeurs ont pris du terrain en République de Guinée et que si on ne réagit pas de façon prompte aux rumeurs, on risque de connaître des scènes regrettables. Notre pays a raté de justesse un tel incident dans la préfecture de l'Abbé suite à la distribution des dispositifs dans les mosquées et qu'il y a des esprits malveillants qui ont fait circuler en rumeur que ces dispositifs contenaient des talismans et contre les fidèles qui fréquentaient ces mosquées.
Les rumeurs, les réticences, voilà de nouveaux défis pour cette coordination. L'équipe médicale est souvent rejetée dans certaines régions. Marc Poncin de MSF confirme ses difficultés dans la lutte contre Ebola.
Au niveau des points saillants de la semaine, c'est tout d'abord, il y a toujours des réticences observées dans les villages de Tonota et de Yekini à Yomou et à Bofosu et Koyama dans Masanta. Les autorités sanitaires sont en train de tout mettre en œuvre pour restaurer le climat de confiance et de collaboration entre le système de santé et la communauté.
Au nom des obstacles à la riposte, le porte-parole du gouvernement a cité la porosité des frontières. Damantan Albert Camara promet des contrôles stricts.
Les passages clandestins dans les petits sentiers de la forêt alimentent un business avec les passeurs et ainsi de suite. On a ces informations-là et effectivement les services de sécurité tentent avec les moyens qui sont les leurs de lutter contre cela. L'objectif c'est de faire de telle sorte que les gens passent par les frontières officielles de manière à pouvoir être contrôlés, testés et surtout identifiés.
Enfin les chiffres. Médecins sans frontières annonce 974 cas, dont 630 décès. 79 malades sont dans les centres de traitement, alors que 269 personnes ont quitté l'hôpital, guéries, selon la même source. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Rubrique éducation pour finir l'émission. Au Togo, un groupe de jeunes filles passionnées de technologie ont récemment fabriqué des ordinateurs en utilisant des bidons plastiques dans le cadre du Female Tech Camp, un camp d'activité dédié à l'informatique. Une initiative visant à briser le mythe autour de la fabrication d'ordinateurs, mais aussi pour mettre en avant de nouveaux talents féminins dans le domaine technologique. Un projet qui a tout naturellement trouvé son slogan choc. Des ordinateurs en bidon, mais pas bidon. Reportage de notre correspondante Kaï Lawson.
Au Togo, comme un peu partout sur le continent africain, le domaine des sciences, de la technologie est et demeure l'apanage des hommes. La preuve, au Togo, seulement 8% des étudiantes s'inscrivent dans des facultés de sciences. Fort de ce constat, l'Américain Corner de l'Université de Lomé a organisé du 9 au 13 septembre 2014 un camp dénommé Female Tech Camp. L'objectif est d'encourager les jeunes filles à acquérir des compétences technologiques. Nadège Afoutou, responsable du Female Tech Camp.
Nous avons constaté qu'il y a très peu de filles dans les filières informatiques et la plupart d'entre elles qui s'engagent dans ce domaine font du software. Peu d'entre elles font le hardware. Donc c'est l'occasion pour nous de leur montrer qu'elles peuvent faire du hardware d'une part et aussi de leur montrer qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à elles et également pour les aider à être des leaders d'incubateurs de technologie dans leur communauté.
C'est un cliché d'affirmer que les femmes ne peuvent pas exceller dans les sciences et technologies. Aussi bien les filles que les garçons ont les mêmes aptitudes, soutient Dr Amivi Kafui Tété Bénissant, présidente de l'Association des femmes scientifiques du Togo.
Étudier en sciences et technologies, c'est à la portée de tout le monde. Filles comme garçons, ce qu'il faut, c'est la persévérance. Il faut oser, il faut refuser les solutions de facilité, il faut de l'abnégation, il faut des efforts en continu. Et c'est un sacrifice de tous les jours. Si on donne les mêmes chances aux filles comme on donne aux garçons, il n'y a pas de problème que les filles aussi réussissent.
Une vingtaine de filles ont pris part au Female Tech Camp, au cours duquel elles ont fabriqué des ordinateurs assez particuliers. Nadège Afoutou, coordinatrice du Female Tech Camp.
L'élément spécial de ce Tech Camp, c'est l'ordinateur en bidon, pas bidon du tout, que le Well a conçu et qui est dénommé le WAFAT. Cet ordinateur-là montre qu'on peut à la fois allier environnement et technologie, parce que c'est faire partie des produits recyclés, tels que les déchets technologiques, les bidons, les ordinateurs qui ne servent plus à rien du tout.
Le Female Tech Camp a permis à des jeunes filles passionnées de la technologie de briser le mythe autour de la fabrication d'ordinateurs. Elles en ont fabriqué elles-mêmes.
Ils sont aussi fonctionnels que les ordinateurs sortis tout droit de l'usine. Tout aussi utiles, font les mêmes choses.
Avant qu'on voit l'unité centrale, c'est comme un truc qu'on ne peut pas toucher. Mais en fait, quand c'est avec un bidon, c'est ordinaire, quoi. Tout le monde peut avoir assez, tout le monde peut toucher. C'est un peu plus familier.
Cette initiative se veut une plateforme pour susciter des talents féminins dans le domaine technologique. Ceci en accord avec le thème 2014 de la Journée de la femme africaine qui est « Rôle des femmes et des filles dans l'éducation, les sciences et les technologies en vue d'une reconnaissance africaine ». Kailosson Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation et à la technique, Joselle Morissin. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Kadi Diarra et son single « Jinguya ». Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.